Paso doble.
Paso doble.
Lundi, littérature.
Penser la France avec les écrivains, les philosophes, les scientifiques, c'est le programme de cette journée, le jour d'après sur France Culture. Mais avant de retrouver Régis Debray que tout le monde connaît avec Guillaume Herner ou Marc Ferraud avec Emmanuel Laurentin pour la Fabrique de l'Histoire, avant de retrouver Ariane Mouchkine, il était très intéressant d'entendre deux trentenaires, deux écrivains trentenaires comme vous, Chloé Corman, comme vous, Mathieu Larnedi. Comment avez-vous passé cette nuit ? Chloé Corman.
Elle a été courte cette nuit et pleine d'émotions. Pleine d'émotions très mélangées. Hein, celle d'un moment, l'impression, l'énergie que donne l'impression d'être passé à côté de la catastrophe. Et puis aussi une énergie liée au jeune président. Est-ce que ça donne l'impression qu'on peut agir maintenant sans qu'on vous donne un rôle et un parcours pressenti obligatoire. Après, la nuit était chargée aussi pour moi de ce qu'on a vécu mercredi avec le débat qui était très violent et très traumatisant, je trouve, pour la suite.
On va en parler. Mathieu Larnedi, donc, ça y est, c'est fait. À 39 ans, Emmanuel Macron devient le 8e président élu de la 5e République avec 66% des voix. Il a le même âge que vous, 39 ans.
Oui, exactement. Il est allé un peu plus vite que moi.
Est-ce qu'il porte en lui des revendications nouvelles, une vision moderne de la France et du monde ? Est-ce qu'on peut parler d'une rupture générationnelle avec l'élection de Macron, Mathieu Larnedi ?
On verra surtout ce qu'il va faire au cours du quinquennat et c'est plutôt son action à venir qui nous le dira. Après, il est évident qu'une accession au pouvoir aussi rapide pique un peu notre curiosité. Ce qui me stupéfie quand même dans cette ascension, outre sa rapidité, c'est le fait que c'est quelqu'un qui, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas été élu au préalable, a eu une vie publique finalement très très brève, était encore inconnu ou quasiment inconnu il y a 4 ans, et que devant tous les vieux routards de la politique qui eux font ça depuis 30 ans, ont connu tous les compromis, voire toutes les compromissions, avaler des couleuvres, jouer ce jeu florentin qui est celui de la politique française, lui finalement il arrive et il se contente pour ainsi dire, en tout cas c'est presque le sentiment qu'on a de cueillir cette mandature comme si elle lui avait toujours été promise. Donc ça c'est vrai que c'est quand même une figure politique radicalement nouvelle et étonnante.
Il vient d'où ? Je vous pose cette question puisque vous, Mathieu Larnedi, vous avez écrit pour Vanity Fair une enquête très intéressante. C'était au moment où Macron devenait ministre de l'économie, donc il quittait un peu le palais de l'Élysée et du coup il se mettait face à tout le monde, à la presse. On commençait à le connaître à ce moment-là. Et pour Vanity Fair, vous avez eu une très bonne idée, c'était d'aller voir ses camarades de promo de l'ENA, c'est-à-dire la promo Léopold Sédar Senghor, et vous les décrivez comme des jeunes gens brillants, prometteurs et déjà puissants.
Oui, pour tout vous dire, l'enquête avait même eu lieu avant, à ce moment-là, Emmanuel Macron, si mes souvenirs sont bons, venait à peine d'arriver à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint. Mais il y avait déjà, effectivement, issu de cette promotion Senghor, un ensemble de jeunes personnes qui essaimaient parmi les cabinets, les grandes banques, enfin qui se trouvaient déjà à des poste de pouvoir assez conséquent. Et finalement, c'est après que l'article que j'avais fait avait été remis un petit peu à jour une fois que Macron a été nommé ministre. Mais ce qui m'avait surtout frappé concernant ce personnage-là en particulier, c'est que tous ses camarades avaient sur lui un jugement quasi unanime et le présentaient comme quelqu'un d'éminemment sympathique, de drôle, de bien sûr extrêmement brillant. Il l'aimait tous, je crois, hein, on peut le dire, même ceux qui étaient le plus éloignés de lui sur l'échiquier politique. Et il y avait surtout un mot qui était revenu dans la bouche de plusieurs d'entre eux, sans qu'ils se concertent, hein, bien sûr, je les ai vus séparément. Il m'avait dit que ce garçon était doué d'une empathie particulière. Alors ça m'avait beaucoup étonné, le recours à ce mot-là, empathie, le même mot chez plusieurs personnes. Donc je ne sais même pas vraiment ce qu'il veut dire, mais je crois que, enfin ce que eux entendaient par là en tout cas, mais je crois qu'il désignait surtout une faculté éminemment politique à être pleinement présent dans l'écoute de votre interlocuteur direct et à peut-être à comprendre ses problèmes.
Et vous dites aussi qu'ils sont moins formatés que leurs aînés, ça, on veut bien le croire, mais qu'ils sont un peu rebelles, puisque déjà, le fait d'appeler leur promotion Léopold Sédar Senghor, donc poète, académicien et homme d'État sénégalais, unanimement célébré, et ben vous dites que a priori, c'était pas un choix facile, c'était même un choix de contestation, puisque un an auparavant, ni Jacques Chirac, ni Lionel Jospin n'avaient jugé utile de se rendre aux obsèques de Senghor.
Alors, bien sûr, on parle là dans le cadre de l'ENA, donc
de la promotion,
avec,
oui.
Voilà, avec ses codes, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de ces codes-là, il semblerait que cette promotion ait suscité quelques émois et qu'ils se soient un peu tous conduits, si ce n'est de façon rebelle, au moins un peu récalcitrante avec certaines règles, certaines lois de établies de ce pouvoir-là. Donc oui, je ne sais pas si Emmanuel Macron était très moteur dans ces petites contestations-là, mais en tout cas, il y a pris part, il en a fait partie, et alors peut-être qu'il a en lui un peu un tempérament fondeur qui se révélera lorsqu'il en sera besoin.
Est-ce que son ascension, vous rappelle, vous renvoie à des personnages romanesques? Chloé Korman, Mathieu Larnaudy.
On a entendu hier sur les plateaux le nom de Rastignac, mais je ne sais pas si on doit forcément faire appel à ce parcours. Comme on le sait, Rastignac justement reste dans la banque, et Macron a revendiqué le fait de quitter ce domaine-là pour la politique. Donc je ne sais pas si la littérature nous éclaire. Je pensais à ce que décrivait Mathieu. Ça dit quelque chose quand même de l'atmosphère, le fait que des jeunes gens qui s'affirment soient appelés rebelles. Enfin, c'est quand même pas échevelant ce qu'ils ont proposé dans cette promotion. Le personnage, il donne à penser par son parcours et aussi, je trouve, par sa rhétorique. Moi, c'est là-dessus aussi que je suis très étonnée et très curieuse. On a vu, moi j'étais étonnée par le fait qu'il était pas un tribun, hein, le discours, c'est pas encore son truc. Par contre, je pense que c'est un homme du dialogue et qui le pratique d'une façon vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'il surprend constamment en montrant que il accueille le débat contradictoire et ça veut pas dire trafic d'influence quand c'est lui qui organise ce genre de débat pour éclairer sa prise de décision. C'est vraiment, il est capable d'accueillir le point de vue inverse pour décider sans donner l'impression qu'il va aller au gré du vent de tous les interlocuteurs. Ça me rend curieuse et il est pédagogue.
Originaire d'Amiens, excellent pianiste, installé à Paris pour faire ses classes préparatoires au lycée Henri IV, normalien, Emmanuel Macron a consacré sa maîtrise à Machiavel pour son DEA, la notion d'intérêt général avec le philosophe Étienne Balibar. Et il a aussi assisté durant 2 ans à l'autre penseur, Paul Ricoeur. Chez les intellectuels, on devrait l'aimer, hein, c'est-à-dire qu'il présente un parcours impeccable. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'autour de lui, il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup d'intellectuels, pas encore.
Il semblerait que non, encore que je crois que quand même, peut-être de façon un petit peu plus sous-jacente, quelques-uns soient présents. En tout cas, effectivement.
Et comment vous l'expliquez ?
Peut-être que ça viendra, peut-être que justement la rapidité aussi de son ascension explique que autour de lui se soit surtout fédéré des gens qu'il a rencontrés au gré de son itinéraire politique et qu'il n'a pas forcément eu, pour l'instant en tout cas, à aller un petit peu chercher parmi les intellectuels de quoi tonifier un petit peu son discours. Il n'est pas du tout exclu qu'il le fasse dans les les temps qui viennent. Après, c'est quelqu'un qui a lui-même, effectivement, semble-t-il en tout cas, une formation philosophique et intellectuelle forte. Et c'est quand même toujours intéressant, quoi qu'on en pense, d'avoir des hommes de pouvoir et qui accèdent aux responsabilités, qui ont aussi une pensée de ce pouvoir. Et quelqu'un qui a travaillé sur Machiavel ne risque pas d'en être exempt.
Alors, avant de parler de génération Macron, on attendra quelques années, même si vous nous faites un portrait de groupe de la promotion d'Emmanuel Macron dans votre article de Vanity Fair, qui est très intéressant, cet éclairage. On peut parler, en revanche, avec vous, Chloé Corman, de génération Le Pen, parce que vous-même, vous me le faisiez remarquer la semaine dernière, vous avez commencé à voter, quand vous aviez l'âge de voter pour la première fois, c'était en 2002. Il y avait déjà donc Le Pen au second tour. Entre Le Pen père et Le Pen fille, c'est 15 ans d'engagement politique. Et vous avez dit que la lutte contre le Front National vous a structuré.
Oui, génération Le Pen, vous êtes dur. Mais oui, c'est vrai, je garde un souvenir très très aigu du premier tour des élections de 2002. C'était au beau milieu de mes études, c'était dans un moment de construction personnelle très important. Et c'est vrai que ça oriente forcément mon attitude électorale là, aujourd'hui, en 2017. C'est-à-dire que ça a fait de moi une électrice prudente et pas... qui ne votait pas, quand on a parlé de vote utile, mais effectivement, c'est sûr que avoir utilisé son premier bulletin de vote en 2002, ça compte pour la suite. Aujourd'hui, ce qui est pour quelqu'un qui a vécu Le Pen père et puis fille, ce qui est navrant, c'est de voir la pérennisation du Front National dans le paysage politique, l'imposition des mots du Front National dans les médias sans qu'ils soient contrés, ça c'est très très navrant. Et puis des thèmes qui construisent leur électorat. Aujourd'hui, je suis prof, j'ai été très frappée cette année électorale, c'était dramatique pour moi, tout en étant touchant de voir beaucoup de mes élèves qui se précipitaient à la journée où l'armée venait dans le lycée pour présenter les métiers de l'armée, parce que la sécurité de l'emploi, c'est ça qui les emballe. Donc ça montre quand même une espèce d'ambiance pour l'avenir qui inquiète.
Mathieu Larnedi.
Oui, moi je suis complètement Chloé sur ces remarques et sur ces constats. Mais il en va justement tout simplement de l'état du débat public en France. Et moi, c'est surtout si cette élection doit appeler un renouvellement du personnel politique, comme il semblerait que Emmanuel Macron soit tenté de le faire. En tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. On verra comment ça se traduira, ne serait-ce que par la composition de son gouvernement très prochainement. Mais au-delà du personnel politique, il y a aussi quelque chose à faire, des gestes à produire dans le débat public français.
Par exemple,
tout simplement pour essayer, si on savait exactement comment agir, on le ferait. Je pense que c'est plutôt des prises de conscience à tenter de produire. Mais il faut quand même, je crois, si l'on veut cesser cette progression du Front National, vous savez, c'est un syntagme figé un peu, la montée du Front National. On pourra revenir dessus parce que finalement, peut-être que il a montré qu'il touchait aussi un peu son plafond de verre. Mais enfin bon, si on veut endiguer ce mouvement-là, de toute façon, il faut que le débat public français cesse d'être obsédé par les questions de l'identité nationale, de l'immigration, de l'islam, qui de toute façon continueront de faire le jeu de ce parti-là, directement ou indirectement. Donc tant que tant que le débat public sera monopolisé par une quinzaine, une vingtaine d'intellectuels qui cantonnent absolument tout ce qui peut se dire à ces thèmes-là, on l'a vu encore hier sur le plateau de France 2 avec Pascal Bruckner, qui arrive en se félicitant de l'accession au pouvoir d'un jeune homme et qui immédiatement ramène sur le tapis ses vieilles obsessions et parle immédiatement de la repentance, de l'identité nationale.
Vous êtes pour le renouvellement des intellectuels médiatiques?
Oui, je ne suis pas pour le renouvellement des intellectuels médiatiques,
c'est-à-dire... On peut l'entendre comme ça.
Non, non, parce que je ne dis pas du tout qu'il faudrait substituer de nouvelles figures aux figures déjà en place. Je souhaiterais par contre qu'effectivement dans la sphère médiatique passe et s'exprime plus de personnes et surtout un éventail plus large et pluraliste d'opinions, d'idées et de pensées. Et ça, effectivement, je crois que la sphère médiatique pêche un peu à ce niveau-là.
Mais vous êtes en forme, parce que c'était ma dernière question était de savoir si on ressort de cette séquence électorale avec une volonté de continuer à croire au combat politique ou pas. Elle a été longue, elle a été violente, elle était pleine de rebondissements, cette campagne électorale. Mais il ne faut pas oublier le nombre d'abstentionnistes, de bulletins blancs et nuls, qui ont battu un record hier. Plus de 25% pour le niveau d'abstention, c'est quand même assez inquiétant. Est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle, que cette campagne, va donner envie aux gens et aux jeunes de s'investir beaucoup plus dans le combat politique ou d'être intéressés par la politique? Je vous pose cette question puisque la semaine dernière, entre les deux tours, à ce même micro, on avait le comédien Reda Kateb, et lui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était très désenchanté.
Franchement, je vis ces élections avec un sentiment de quelque chose d'assez nauséabond, quelque chose qui manque de rêve pour moi, qui manque de souffle, qui manque d'élan et d'envergure. Et je suis d'une génération qui a toujours voté par défaut pour éviter le pire. Et cette chose s'ancre de plus en plus, et c'est pas ma vision de la politique, et c'est pas ce que j'attends de ceux qui nous gouvernent. Donc voilà, tout en étant citoyen et sans me voiler la face sur le monde dans lequel je vis, j'ai plus d'intérêt pour les gens que je vois autour de moi dans la rue que pour ceux qui nous représentent. Mais malgré tout, j'exerce mon droit de vote de citoyen, mais avec peu d'idéal finalement.
Avec peu d'idéal, finalement, disait Reda Kateb. Mathieu Lardoni, comment vous réagissez à ce propos?
Bah écoutez, tout à l'heure, on a entendu citer cette magnifique formule de Victor Hugo, « Étonner la catastrophe ». Et il se trouve que Patrick Boucheron, dont il a été question dans l'annonce juste avant, reprend cette même expression dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Et « Étonner la catastrophe », ça pourrait être effectivement quand même un mot d'ordre, ou en tout cas un leitmotiv pour nous tout à fait intéressant. Puisqu'il semblerait que, de l'aveu général, une catastrophe soit là, sans qu'on sache exactement d'ailleurs à quoi elle renvoie. Mais enfin, voilà, il y a une espèce de discours ambiant qui voudrait qu'on soit précipité d'ores et déjà dans la catastrophe. L'étonner, c'est aussi la combattre, c'est-à-dire aussi tout simplement sortir de l'aspect très performatif des discours qui font que, quelque part, la colère et la catastrophe nous sont imposées comme seul horizon possible. Et je crois que le travail artistique, le travail de romancier, le travail d'historien, le travail intellectuel peut servir à ça.
Chloé Corman.
Oui, je comprends bien ce que dit Reda Kateb aussi, au sens où on est tous hantés par la pauvreté que ça a pu représenter ces derniers temps, le geste de vote. On se rend bien compte qu'on nous impose l'idée que l'action politique, c'est voter une fois tous les 5 ans, alors qu'en fait, c'est se dire que c'est ici et maintenant d'agir, que c'est nous, dans nos propos, dans nos façons de se construire collectivement, qui faisons la politique. Donc en ce sens-là, je ne contredirais pas Reda Kateb, parce que au fond... Il a raison, la politique, c'est pas seulement aux urnes, mais c'est les citoyens entre eux. Et c'est aussi, effectivement, porter un regard critique sur, mais pas seulement sur les personnalités qui monopolisent la parole, mais sur une ambiance de pensée, des mots qui figent le débat. Et qui imposent. Moi, je suis étonnée, par exemple, qu'un libéral comme Macron n'arrive pas à imposer le thème de l'immigration comme facteur de croissance économique. Ça montre à quel point on est figé sur l'ambiance xénophobe. Hein, ça montre comment on s'est figé sur ces thèmes.
Nos deux premiers invités de cette journée spéciale, Penser la France, Chloé Corman, Mathieu Lardoni, merci d'être passé ce matin.
Merci.
Merci.
Merci à vous deux, Mathieu Lardoni, Chloé Corman, d'être passé ce matin. Merci à Toufik Hakem aussi. Il est 6h26 sur France Culture.